Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre merveilleuse série « L'Évangile du règne de Dieu ». Nous arrivons à l'étude numéro 8 et le titre sera « Le chemin de la croix ». Voici un des premiers commandements qui dit « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre maître ». C'est même le commandement suprême. « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre maître, pas d'autre Dieu, pas des idoles en bois, en fer, en pierre ». Et j'en passe. Croire au sens propre du mot, ce n'est pas réciter nos professions de foi, mais c'est de croire au sens où Jésus l'entend. Cela signifie croire que quelque chose viendra, croire que Jésus veut quelque chose, croire que Jésus peut quelque chose. Je répète, Jésus veut quelque chose, croyez-le, et croyez que Jésus peut également quelque chose. Nous ne devons jamais dire de quelque chose, on ne pourra jamais le changer. Celui qui dit cela n'est pas du royaume de Dieu. Ceux qui se contentent de tout ce qui accourt dans le monde, ceux qui vont répétant « Oh, il n'y a rien à faire », ce sont ceux qui empêchent le royaume de Dieu de venir. Je répète, si vous dites « Il n'y a rien à faire », vous faites partie de ceux qui empêchent le royaume de Dieu de venir. Cette parole est le plus grand ennemi du royaume de Dieu. Elle frappe de paralysie ce qui doit devenir vivant sur terre, ce qui devrait pouvoir se réaliser sur terre. Quand le royaume de Dieu approche, nous chrétiens devons être les hommes du progrès. Nous devons nous taire devant Dieu et nous devons l'attendre. Élever la voix n'a jamais marché de pair avec le nom du Seigneur. Celui qui parle trop haut est bientôt forcé de baisser pavillon. Depuis Noé, il, au pluriel, il prophétisait « Je viens de la part du Seigneur ». Mais le monde les a ignorés. Quand le Sauveur dit à ses disciples « Allez dans le monde entier, go into all the world and preach the gospel. » Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Et son dernier mot est « Je suis auprès de vous tous les jours. » Soit en d'autres termes, faites attention, cela n'a pas été remis entre vos mains, mais c'est moi qui dois le faire. Donc, ne fais pas trop de bruit. Si tu veux fonder une secte, alors oui, mène beaucoup de tapage. Si tu veux de la gloire pour toi, alors fais du bruit. Mais si tu cherches vraiment le royaume de Dieu, alors garde le silence. Le royaume de Dieu n'arrive pas par nous, mais par Dieu. Nous n'attendons pas l'avènement d'une société améliorée. Le suprême divin qui se manifeste dans l'homme est le pur humain que Dieu ennoblit ce n'est là que l'œuvre des forces de Dieu lui-même. On doit aussi être pas trop bruyant dans sa propre vie chrétienne. Il faut donc se garder des exagérations. Il ne faut pas non plus tant parler à tort et à travers sur la morale et la religion. Il ne faut pas non plus trop réfléchir sur soi-même. Si nous nous occupons toujours en pensée que de nous-mêmes, nous ne sommes pas silencieux. Nous prenons alors soin nous-mêmes de, on peut bien le dire, de notre propre salut. Il faut donc qu'il y ait aussi des gens qui sachent qu'ils appartiennent à Dieu et qui restent néanmoins parfaitement naturels, car les choses divines viennent dans le cœur sans qu'on le remarque. Dieu le met dans ton cœur par son Esprit Saint et il te donne la vie. Ensuite, elle se répand d'elle-même hors de toi, comme la respiration, tout simplement. Un ouvrier du royaume de Dieu n'a pas la tâche la plus facile que d'autres hommes, bien entendu. Toute la misère du monde atteint aussi la communauté de Jésus-Christ. Jésus se charge de nos douleurs. Cette loi du support qui dit « portez les fardeaux les uns des autres », elle vaut également pour sa communauté. Ce qu'il y a de douleur dans le monde, cela atteint aussi d'une façon quelconque les disciples de Jésus. Mais ceux-ci ne voient pas, ils ne doivent pas succomber simplement sous le poids comme les autres hommes. En le supportant en silence, ils doivent, vous devez, surmonter peu à peu le fardeau des épreuves. Alors la clarté augmentera dans le monde. Les hommes se sentiront allégés et finalement les disciples de Jésus, eux aussi, seront soulagés. C'est pourquoi les disciples de Jésus ne doivent jamais dire « Mon Dieu, oh, préserve-moi de ceci et de cela. Je ne puis comprendre, je ne peux pas comprendre qu'il me faille supporter tout cela, car tout de même, j'ai toujours été un homme juste, j'ai toujours prié, et voici que ce qui attend le monde, cela m'atteint également. » Nous devons donc nous charger des maux de ce monde. Nous pouvons les supporter, car Jésus, il est vainqueur en nous et il triomphe du mal qui pèse sur les hommes. Et vous avez compris, quand la Bible dit les hommes, ça comprend automatiquement les femmes. Prenons l'exemple suivant. Il y a aussi des chrétiens en Syrie, en Irak, en Afghanistan, etc. Or, ils sont confrontés aux mêmes horreurs que les non-chrétiens. Certaines femmes chrétiennes ont également été violées et toutes les autres choses abominables que l'on n'ose même pas raconter. Les chrétiens n'échappent donc pas beaucoup plus à certaines catastrophes telles que les tremblements de terre, des feux gigantesques par-ci, par-là, sans compter les inondations phénoménales que les non-croyants doivent aussi être confrontés. Donc le chrétien n'y échappe pas toujours. En principe, une communauté de Jésus peut être une communauté qui libère le monde de son fardeau. Elle est ainsi le petit troupeau auquel est promis le royaume. Un petit troupeau qui se sépare du monde et ne veut plus prendre part et fera donc tout ce qui est possible pour vivre dignement. Nous devons donc rester attachés à l'arbre de la vie des hommes, si gangrené qu'il soit. Le terme sera la fin de tout mal, mais provisoirement tu ne seras pas épargné, mais tu dois donc avoir en toi ce qui est éternel, ce qui est éternel pour surmonter le mal. Les disciples de Jésus connaissaient, ils connaissent encore une autre douleur, c'est-à-dire que les hommes n'ont souvent pas, c'est qu'ils sont eux, s'ils sont vraiment des disciples de Jésus, ils sont détestés. Et comment ? À cause de Jésus. Ils doivent partager la douleur du Sauveur quand ils voient que les hommes ne comprennent pas Dieu. Ils doivent supporter la douleur qu'il souffre sur la croix quand il est là, cloué et abandonné de tous et méconnu de tous. Voilà donc la seule véritable douleur que ont les disciples de Jésus. Mais ils doivent prendre aussi sur eux cette croix et dire « Heureux sommes-nous d'être ainsi détestés et ainsi persécutés à cause de Jésus. » Il faut que le combat soit enfin livré maintenant. Nous tous qui cherchons le royaume de Dieu, nous devons pouvoir être appelés les abandonnés et pourtant nous devons rester heureux. Rien de nouveau ne se crée sans lutte. Et cette lutte, elle va jusqu'au sang. Mais précisément, ce que nous souffrons pour l'amour de Jésus doit avoir une suite heureuse. Dans cette croix et dans cette souffrance vient le royaume de Dieu. Malheur à nous s'il nous arrive d'en vouloir à ceux qui nous injurient et qui nous persécutent. Ils ne peuvent faire autrement et ne comprennent pas mieux. Donc, nous devons pardonner au monde et nous devons supporter avec patience ce qui nous est parfois imposé. Parce que Christ est avec nous, nous pouvons mépriser aucun homme. Nous devons même pouvoir pleurer toujours sur les pécheurs et ne pas condamner en juge, ni avec colère ou avec dureté. Si Christ est en nous, si Jésus se trouve en nous, nous devons traverser l'épreuve dans l'esprit de celui qui n'a pas d'armes pour se défendre, ni de bouche pour pouvoir répondre ou même injurier. il ne nous reste qu'à souffrir au milieu de la foule des pécheurs et à nous écrier « Père, s'il te plaît, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » D'année en année, cela apparaît plus clairement maintenant. Christ, dans la chair, n'a ni dents ni défense. Il ne peut que se taire, exactement comme l'agneau devant celui qui le tond, et de tout remettre à Dieu. C'est là le joug dont le Sauveur a dit qu'il est léger. Mais si nous nous défendons, si nous désespérons des hommes, si nous nous irritons contre leurs péchés, le christianisme devient terriblement lourd à porter. Par contre, c'est une tâche facile que de suivre l'agneau de Dieu qui porte sur lui les péchés du monde. C'est lui qui les porte. Une tâche légère devant Dieu, car en l'accomplissant, ou on peut dire on est un avec Dieu, et l'on a toujours une bonne conscience ainsi. Voyez-vous, la tâche, elle est lourde, on est d'accord. Elle est lourde pour les hommes. On succombe presque sous le poids. Mais il faut porter la croix. Mais cette croix de Jésus-Christ nous devient légère devant Dieu. Si l'on crie, si l'on se lamente et qu'on se défend, et si l'on devient même méchant, parce qu'il faut tellement souffrir, alors la pleine lumière de Dieu, elle s'évanouit à nos yeux, et l'on ne peut, comme Jésus, demeurer joyeux et l'homme forte dans les plus amères douleurs. On devient sombre, grincheux, amer. Rien ne rend plus sombre que l'amertume devant le sort. Mais si Christ est vraiment en nous, oui, lui, l'agneau de Dieu, alors nous pouvons surmonter beaucoup. Il y a un peu plus de 40 ans, je disais que c'est Jésus qui a porté la croix pour nous, un point c'est tout, et que nous n'avons surtout pas à la porter maintenant, mais par beaucoup de souffrances et d'épreuves, croyez-moi, j'ai compris que j'avais mal compris certains aspects de la Sainte Parole de Dieu. Il y a sur terre une souffrance qui agit un peu comme une délivrance. Si l'on souffre étant totalement innocent, alors il y a la victoire sur le mal. Christ nous en a laissé un exemple. Il a dit « Sachez souffrir en bravant la souffrance dans la certitude victorieuse que vous êtes plus grand que la souffrance. La souffrance passe, mais vous ne passez pas. Triomphez. Oui, triompher de la souffrance, surtout quand elle vous frappe en étant innocent. De même que le Sauveur a sa croix, le Sauveur Jésus, il a vraiment sa croix. De même, nous, oui, vous et moi, devons avoir la nôtre. Cela prouve combien nous lui tenons de près sa croix. C'est sa participation au péché du monde. Je répète, sa croix, c'était sa participation au péché du monde, à tous nos péchés. Le monde devient sa croix. S'il appelle à lui un disciple, il l'attire dans sa souffrance. Tout d'abord, il le délivre et lui dit « Tu es un enfant de Dieu, tes péchés te sont pardonnés. » Mais ensuite il est dit « C'est lui qui ne se charge pas de sa croix, ne peut, et j'ajoute, ne peut pas être mon disciple. » C'est le commencement de la participation à la misère du monde. Cette participation pénètre profondément et nous entraîne dans une sorte de collision avec le monde, et du fait de ce choc, la croix tombe sur nous. La croix, c'est ce que le monde jette sur nous. Nous voulons nous charger du monde, et il nous rejette. En partie, il nous rejette par folie, et en partie, par malentendu, et en partie, également par désespoir. C'est aussi beaucoup par la faute du monde que les chrétiens sont devenus si extraordinaires. Ainsi, par exemple, les débuts du piétisme, on les a appelés les piétistes. On leur a donné toutes sortes de noms. C'était une chose délicate et très belle. Dans cette église un peu rigide, une vie cordiale et chaude s'est fait jour. Il y avait là un courant réchauffant, quelque chose qui venait du Sauveur. On voulait se charger du monde et on l'a fait. Combien d'œuvres d'amour auxquelles on n'avait pas pensé auparavant ne doit-on pas à ces piétistes, au piétisme? Mais ensuite, le monde a frappé ces hommes, les a persécutés, voire même martyrisés, et a amoncelé les injures sur eux. Ce fut sur eux, donc, la croix. Ce fut pour eux, on peut bien dire, la croix. Quand une croix semblable s'appesantit sur l'un de nous, prenons garde de ne pas nous laisser aigrir. Le Sauveur ne s'aigrit jamais. Il voit la folie des hommes et il pardonne. La croix de Jésus n'est efficace que parce qu'il reste dans l'amour de Dieu. Dès qu'un homme a en lui cet esprit-là, la croix agit. Une croix en soi et pour soi ne sert à rien. Il faut y joindre l'amour de Dieu, et on ne l'a jamais épuisé. Il y a tellement de disputes, même parmi les chrétiens, on s'aigrit, on frappe autour de soi. Mais que celui qui veut prendre sur lui sa croix imprime d'abord ceci dans son cœur, que l'amour doit demeurer. Si tu ne le peux pas, alors abandonne la croix. Si quelqu'un a reçu une offense et ne peut pas l'oublier, qu'il reste éloigné de la croix du Christ. La croix du Christ ne devient lourde que si l'on prétend la porter en la laissant aigrir en même temps. Oui, nous devons être de ceux dans l'âme desquels peut briller toujours l'amour de Dieu. Je répète, nous devons ou devrions être de ceux dont l'âme, notre âme, puisse briller toujours selon l'amour de Dieu. C'est la force la plus sublime qu'il y ait au monde. C'est par cette force que le Christ est vainqueur. Mais il doit avoir des disciples qui sachent aimer comme il aime. Car avoir uniquement le zèle et la foi, cela ne mène pas toujours à grand-chose dans le royaume de Dieu. Mais l'amour pour les âmes, elle perdue, elle restera. Cet amour, elle réconcilie le ciel et la terre et ramène tout à Dieu. Voici maintenant la définition de la vie des disciples du Christ. Ce qui t'arrive ne t'est pas infligé pour faire de toi simplement un héros, mais pour être dénoué et réconcilié en toi. C'est ainsi que le Christ a porté dans sa chair sur la croix les péchés et la mort. Il ne les a pas rejetés loin de lui, mais il s'en est emparé d'une main ferme et ne les a pas laissés échapper. Par là, il se lie intimement avec les pécheurs et les prend dans l'obéissance avec lui sur la croix. Il s'est soumis afin de les lier tous à lui et de les porter jusqu'à ce sommet où le feu de l'amour de Dieu, sépare le péché du pécheur. Et je dirais cela différemment, il s'est, le Seigneur, soumis afin de les lier tous, de nous lier tous à lui et de nous porter jusqu'au sommet où le feu de l'amour de Dieu sépare définitivement le pécheur du péché. Donc, c'est ce but que doit dorénavant poursuivre sa communauté sur terre. Le Seigneur dans le ciel et sa communauté sur terre doivent se charger de l'iniquité et doivent la dissoudre. Les péchés eux-mêmes s'ils sont portés au Christ, peuvent être rachetés. Ce n'est pas pour rien que l'homme qui aspire Dieu doit lutter encore avec ses péchés. Par toi, le péché doit expirer et la justice doit apparaître. La mort doit donc exhaler son dernier soupir et doit devenir la vie. Comment arriver à dénouer quelque chose si le Christ n'a personne sur terre? Si aucun homme sur terre ne se donne à cette tâche-là, alors il y a des larmes dans le ciel. Il nous faut être fidèles, oui, fidèles, et ne pas prêter l'oreille aux voix séductrices qui s'élèvent toujours et qui disent « Oh Dieu, a-t-il jamais dit que tu doives tellement souffrir ?» Toutes vos souffrances, même les plus infimes, portez-les en regardant en haut à Dieu et laissez-les de votre cœur monter à Jésus. Lui les dénouera. Que ont fait les prophètes et comment tout spécialement Jésus a-t-il fait pour faire comprendre au peuple ses péchés? Si on les reproche aux gens en face, cela n'a point d'écho, car le péché bouche les oreilles et le cœur. Et si j'assemble beaucoup d'hommes, je n'ai pourtant pas le peuple, et je suis tout de même encore loin d'atteindre en réalité les nombreuses individualités que j'ai là devant moi. Une partie d'eux-mêmes vient au-devant de moi, mais le plus profond de leur être, le plus intime, cela m'échappe. C'est donc du subconscient des hommes que provient leur folie. Je répète, c'est du subconscient des hommes que provient leur folie. Et c'est de là également que leur vient la claire intelligence pour la vérité et pour la justice. Chers amis, nous avons une mission beaucoup plus haute que celle de juger les gens. Ainsi qu'un père de famille doit porter les péchés de sa maison comme s'il était le coupable et attendre le jour où, par le jugement de Dieu, les hommes le remarqueront et iront au-devant de lui. Quand on souffre au milieu de la foule, et cela pour l'amour de Dieu, on ne peut que porter sa douleur devant Dieu et soupirer en disant « Oh, quand donc les yeux de ce peuple s'ouvriront-ils enfin ?» C'est là, oui là, une prédication directe qui va directement là où se trouve réellement le peuple. Lorsque un homme, sans franchir les bornes de sa résidence, prêche ainsi intérieurement à son peuple, cherche la vérité de Dieu et s'y tient, implore la pitié et le pardon et le jugement qui mettra à jour les péchés, son action, elle s'étend au loin dans le monde entier. C'est par une semblable prédication qu'arrive finalement le jugement dernier, celui dont il est dit « Toutes les créatures de la terre se lamenteront. Je ne peux pas les forcer à se lamenter, aucun homme ne le peut, mais ce que l'on prêche en esprit, ce que l'on prêche en esprit devant Dieu, cela agit dans le subconscient, oui, dans ces régions invisibles d'où tout provient, oui, d'où tout provient, tel que le bien comme le mal. C'est donc là que nous devons prêcher, oui, c'est là que nous devons attirer Dieu. Là que nous devons dire, nous ne tolérerons plus cela. Au nom de Jésus, nous ne souffrirons plus que de pareils courants de péchés cachés, des péchés cachés, puissent entraîner les hommes. Donc, nous devons surtout condamner le péché. Nous devons le condamner, le péché qui est la tentation de toutes les nations, et nous deviendrons peu à peu nous-mêmes des hommes qui demeurent en dehors de la tentation. Donc, nous devons échapper à la grande contrainte qui pèse sur tous les peuples, et nous devons devenir d'autres hommes, des hommes qui ne risquent pas d'être entraînés par les courants populaires tels que ceux qui nous entourent. Gardons-nous donc purs. Si nous avons en nous des tendances malsaines, alors, qu'adviendra-t-il du monde? Car même ce qu'il y a de meilleur se changera en ténèbres. Mais si nous restons libres des courants du monde, nous pouvons annoncer aux foules leurs transgressions. Et cet avertissement, elle est faites d'amour pur, de pur évangile. Jésus ne répond pas au mal par le mal. Il reste auprès du Père, dans le ciel. Là, on ne frappe pas à tort et à travers. Là, on ne médite ni ne méprise. Là, on aime seulement du grand amour. Même la critique, elle doit s'incliner devant l'amour, de sorte qu'aucun blâme ne peut venir écraser le pécheur. Bien au contraire, il est délivré, il est maintenant libéré. Une parole de Jésus ne fait jamais mal, même quand il dit « Toi, hypocrite », ou quand il dit « Vous êtes des enfants de votre père, le diable ». Ce sont là, au fond, ce sont des paroles qui sauvent. c'est pour nous secouer, car elles sont toutes dites dans l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui ne méprise aucune de ses créatures. Il arrive qu'un jardinier doive attacher une plante, doive en émonder une autre, peut-être même la couper jusqu'à la racine, mais il cherche à conserver ses plantes et non de les détruire. C'est ainsi que Dieu a aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique, afin que toute créature sorte du désarroi et soit sauvée. C'est ainsi que Jésus devient le compagnon des péagers et des pécheurs. Il fréquente ceux qui, il est vrai, portent encore du mal en eux, mais qui pourtant lui ouvrent leur cœur d'une façon quelconque. Ceux-là lui paraissent propres à quelque chose. Ils communient avec leur foi. Il prend patience avec ceux, avec eux, jusqu'au moment où ce qu'il y a de mauvais en eux puisse totalement disparaître. C'est ce Jésus-là que nous devons suivre. Là où tous répandent en invective, là, nous ne voulons pas injurier. Je répète, là où tous se répandent avec des invectives, des agressions verbales, eh bien nous, vous et moi, nous ne voulons pas leur répondre de la même façon. Là où tous condamnent, nous ne voulons pas condamner. Là où tous tournent le dos, nous voulons prendre garde qu'il ne s'y trouve pas un pauvre enfant des hommes à qui nous puissions venir en aide. Il ne faut pas que l'on puisse dire de nous, « Oh, ils ont répondu au mal par le mal. » Mais qu'ils puissent dire, « Ils ont répandu autour d'eux le pardon des péchés et ils se sont ainsi montrés de véritables disciples de Jésus-Christ. » Avez-vous déjà remarqué combien nous sentons nos cœurs s'élever quand partout où nous allons et où nous séjournons, nous apportons la force qui pardonne les péchés? Il n'est rien de plus grand, rien qui rend plus heureux, qui élève plus notre personnalité humaine, que cette puissance du pardon des péchés. À la vérité, si nous ne savions pas qu'il y a derrière nous la personnalité de Jésus-Christ lui-même, nous n'aurions pas le courage d'aller avec le pardon des péchés au-devant des hommes qui sont si souvent plongés dans les ténèbres. Mais si Jésus se tient derrière nous, alors nous avons le plein pouvoir du pardon. Chacun est capable de juger et de condamner. C'est ce que fait surabondamment le monde. Mais ce pouvoir qui nous est accordé, c'est le pardon des péchés sans jugement et sans condamnation. Dans ce pardon des péchés réside la puissance divine de l'Esprit qui crée, qui peut créer de nouveaux hommes. Pour qu'un homme, j'ajoute femme, devienne une nouvelle créature, nous devons aller à lui dans l'Esprit de pardon. Tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi tout chez toi peut être transformé, même si l'instinct du péché est encore en toi, et quand bien même tu te surprendrais encore à certaines rechutes. Si ta vie a été placée sous le pouvoir du pardon des péchés, alors sois consolé, car ta personnalité va émerger, car elle appartient à Dieu. Mais maintenant, abandonne-toi simplement, quelque peu de ton entêtement, oublie, ouvre la main, laisse tout tomber. Le principal est que ta vie intérieure, se développe et puisse croître comme une personnalité qui vient à Dieu. Son esprit prend soin de toi afin que tu puisses arriver à la perfection. Il faut que nous apprenions à prendre sur nous, devant Dieu, notre faute. On entend toujours encore dire partout, mais moi je suis innocent, que Dieu détourne sa colère de moi, je n'ai pas péché. Personne ne veut avoir péché quand arrivent les épreuves. Ce sont les générations futures qui discernent les fautes du passé. Or, la génération présente fait malheureusement rarement pénitence. C'est pourquoi il faut que les chrétiens apprennent d'autant plus à prier, comme Daniel a prié, comme Daniel l'a fait au chapitre 9 du livre de Daniel. Il se range lui-même parmi les coupables. Il prend également sur lui la faute de ses pères, dont les péchés ont amené le malheur. Il se pénètre entièrement de cette conviction. Ce qui nous arrive, a-t-il dit, est juste. Et si une grande miséricorde ne vient pas à notre aide, eh bien, il n'y aura pas de secours possible, car Dieu est juste. Cette prière de Daniel, elle pénètre à travers tout. C'est une telle prière qui doit aussi l'emporter finalement, qui doit être emportée finalement par toi et par moi-même. Il y a actuellement des bombardements intensifs dans de nombreux pays. Une famille chrétienne qui habite le troisième étage d'une maison de 6 étages, elle est bombardée, elle est détruite, toute la maison est détruite, pas seulement un seul étage. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? Beaucoup murmurent à demi quand ils sont dans la peine et n'arrivent pas à dire, comme Daniel, qui pourtant jusqu'au dernier point se peut croire et murmurer, les autres méritent ce qui leur arrive. Mais Daniel n'a pas fait ça. Il n'a pas dit que les autres méritent tout ce qui leur arrive. Ce sont précisément les meilleurs qui doivent s'humilier profondément en reconnaissant leurs fautes du passé et qui doivent penser à tout ce que le passé aussi a déjà apporté de calamité et de misère, car les péchés de nos pères pèsent également sur nous, et nous devons être assez humbles sous ce fardeau-là. Chers amis, cette rage satanique des hommes, elle a cloué Jésus sur la croix. Elle poursuit bien des hommes de sa haine et de ses calomnies, aussitôt qu'ils ont une vérité quelconque à introduire dans le monde, et il en sera toujours ainsi, jusqu'à ce que les hommes aient été totalement arrachés aux ténèbres. Si nous sommes des disciples de Jésus, aucun homme ne nous flatte plus. Oui, vous ne serez plus ni flatté, ni adulé. Au contraire, le monde nous hait. Et quoi que nous fassions, le monde ne nous aime pas. Dieu en nous ne sera jamais compris, jamais, avant que le jour de Jésus-Christ ne vienne. En aucun temps, le monde n'a compris le Sauveur. De même, il ne comprend pas non plus les témoins qui sont des témoins de l'Esprit-Saint de Dieu aujourd'hui. On ne les aime pas, on nous aimera jamais. On peut se sacrifier corps et âme pour les gens, et c'est ce que on fait pourtant toujours, malgré l'abîme que l'on sent entre Dieu et les hommes. Et malgré tout, on ne sera pas compris. Donc, tout disciple de Jésus doit s'y attendre. Aussi, devons-nous marcher de l'avant sans nous en inquiéter. N'ayez nulle crainte du monde, car le plus qu'il peut, c'est de nous tuer. Et cela, ils le font dans plusieurs pays. Celui qui se sent offensé par la haine des hommes, qui se sent froissé et qui rend coup pour coup quand il est frappé pour l'amour de la vérité, celui-là n'est pas un combattant. Tout le combat consiste en ceci, c'est de faire jaillir de la vie sans rancune pour autrui. Même ceux qui nous haïssent doivent recevoir la vie. La lumière de la vie de Jésus-Christ ne permet d'être fidèle. Elle nous permet d'être fidèles jusqu'à la mort. À cet égard, les disciples de Jésus font souvent des fautes. Ils bataillent trop avec les autres. Nous devons seulement être les témoins de la vie dans l'amitié, dans la bonté et dans la fidélité de Dieu envers tous les hommes. Nous devons supporter dans nos cœurs toute contradiction et même envers notre ennemi le plus acharné. Nous devons tenir ferme à cette vérité. Toi qui écoutes, tu appartiens à Dieu. Je lutte pour cela sur cette terre. Il faut que tu deviennes enfin un homme, une femme de bien. On ne peut éternellement calomnier et haïr. Plus nous sommes fidèles, plus la haine se consume devant nous. La haine n'a qu'un temps, mais l'amour est éternel et dure éternellement. Le révérend Wurmbrand a subi les pires atrocités par le chef des bourreaux. Or, un jour que le fils du bourreau, âgé de 8 ans, se trouvait entre la vie et la mort, le bourreau a dit au révérend Wurmbrand que si, par ses prières, son garçon pouvait être guéri, il ferait tout pour que l'homme de Dieu puisse être libéré. Le garçon fut guéri et le bourreau a tenu sa promesse. Nos droits humains se dressent contre le droit de Dieu. Nous nous imaginons avoir toutes sortes de droits. Comme père, nous croyons avoir un droit sur nos enfants. Comme mari, nous croyons avoir un droit sur nos épouses. Comme maître, nous croyons avoir un droit sur nos serviteurs. Or, si Dieu appelle l'un de nous comme prêtre, comme évêque, comme homme de science ou comme bienfaiteur, celui-ci s'en forge donc un droit. Et avec ces droits-là, nous opprimons les autres hommes. Et c'est pourquoi Jésus appelle tous ceux qui l'ont précédé, il les appelle des voleurs et des assassins. Où voyez-vous Jésus se targuer de son droit? Où? Il ne regarde pas comme une usurpation pour lui d'être égal à Dieu. Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7. Il ne se prévaut pas d'être d'une naissance supérieure, ni d'être élevé au-dessus de tous les autres hommes. Il se fait le serviteur de tous. Il ne se laisse pas introniser comme roi, mais il renonce à ses droits. Et ceci, il le réclame aussi de tous ses disciples, de toi et de moi. Qui veut me suivre, qu'il renonce à soi-même, qu'il renonce à tous ses droits. En nous targuant de nos droits, nous perdons notre qualité d'homme. En renonçant à nos droits, nous devenons des hommes véritables. Où sont les disciples de Jésus, qui renoncent à leurs droits et deviennent des hommes véritables? Où sont ceux qui en appellent à Dieu et aux droits de Dieu? Le secours ne viendra aux hommes que si, comme serviteurs de Dieu, nous représentons son droit sur terre, car c'est alors que Dieu vient comme juste protecteur de l'honneur de tous les hommes. Chers amis, pour terminer cette étude, sachez que je surmonte le mal par le bien. Ce n'est pas par la force du poing ou du bras ou du revolver que nous pouvons faire triompher le bien dans le monde. Nous devons, dans cette liberté avec Dieu, surmonter intérieurement l'esclavage du monde. Nous devons pénétrer avec notre liberté au sein de l'esclavage du monde, afin que la volonté de Dieu soit manifestée par ce que nous sommes là, c'est-à-dire par ce que Christ est en nous. Nous transmettons la délivrance au monde, mais ce n'est pas nous qui le délivrons. Nous abandonnons ce qui est mauvais en nous à la mort, afin que ce qui est divin puisse vivre. Amen. Chers amis, nous allons terminer par une petite prière. Prions. Fais lever, Seigneur, la claire étoile du matin, notre Sauveur Jésus-Christ, sur tous ceux qui sont assis dans les ténèbres, et que nous, ton Église, devenions une brillante lumière pour tous ceux qui sont encore dehors. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, oui, nous voulons intercéder pour eux. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à toutes ces études. Que le Seigneur vous bénisse. Et je peux simplement vous dire, je vous aime. Je vous embrasse tous dans l'amour de Jésus-Christ, l'amour agapé. Soyez bénis. Au revoir et à demain matin pour la suite de cette série.